Amen, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour le temps qu'on a ensemble, Seigneur, le temps qu'on va partager les versets de la parole. Je te demande de parler à nos cœurs, de nous inspirer, de nous graver ces choses dans notre cœur, puis nous donner, comme Pierre a dit ce matin, le cœur à vouloir mettre en pratique les choses que tu nous demandes. Seigneur, ce qu'on veut, c'est de plus en plus comme Jésus. Puis merci pour ta parole qui est là pour nous guider, parce que sans cette parole, on est errant. Puis merci de ta révélation dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On est en train de continuer la petite série sur les 10 commandements. C'est à chaque fois qu'on se réunit, on passe au commandement suivant. Puis notre but, c'est sûr, de passer à travers. On a vu que les 10 commandements étaient là comme pour être, que Dieu voulait nous faire connaître sa volonté. Il nous a donné sa parole, il a donné les commandements, puis c'était quelque chose que Dieu tient à cœur, et pour lui, c'est très important qu'on s'enligne à les mettre en pratique, puis que nous, les chrétiens, on n'est pas sauvés parce qu'on a pratiqué les commandements. On est sauvés par la foi en Jésus-Christ, parce qu'on les a tous transgressés, ces commandements-là. Il n'y a pas un commandement, je pense, qu'on n'a pas transgressé. Parce que si on regarde la manière qui est expliqué le commandement, juste en parlant, mettons, moi j'ai pas tué, mais quand on va le voir, que le juste haïr, on l'a vu ça, juste haïr, tu deviens un meurtrier, fait qu'on a tous transgressé d'une manière ou d'une autre. Puis aujourd'hui, le but c'est pas faire le procès de personne. C'est le but, c'est qu'on connaisse la volonté de Dieu, puis qu'on puisse mettre en pratique les choses pour plaire à notre Dieu. On veut lui montrer qu'on l'aime, on va y mettre en pratique. On veut montrer qu'on est en communion avec Dieu, mais il faut mettre en pratique sa parole. Parce que il y a un verset qui dit, celui qui transgresse ses commandements, il marche dans le mensonge, puis il marche dans l'erreur, puis il est perdu dans un sens. Il est aveugle. On va voir certains passages qui parlent dans ce sens-là. Puis aujourd'hui, c'est une super de belle affaire qu'on voit dans ce commandement-là. Parce que Dieu, il aime ses créatures. Amen. Dieu, il aime ses créatures. Puis il avait préparé de quelque chose de spécial pour ses créatures depuis le début de la création. À la fin de sa création, quand il a fait les 6 jours de création, là, il a créé l'homme, etc. Sa dernière œuvre, il créa son chef-d'œuvre. Un cadeau pour l'homme. Il créa la femme pour compléter l'homme. C'est un chef-d'œuvre de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu pour son homme. Là, on veut l'entendre, non, mais. Gloire à Dieu. Dans Genèse 2, on va voir là-dedans, c'est là que ça commence le point. Dans Genèse 2, 22, ça dit, l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Puis il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est la partenaire de l'homme. Puis là, il y a un verset qui est là, le verset 24, qui nous dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront qu'une seule chair. » Là, dans cette parole-là, nous voyons le cœur de Dieu pour ses créatures. Il a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais y faire une aide qui est semblable à lui. » Le cœur de Dieu... Il y en a-tu qui ont des doutes sur le cadeau de Dieu? Non. Il faut apprendre à comprendre le plan de Dieu dans cela, puis dire, wow, c'est super, Dieu m'a donné une femme.
Amen. C'est une grâce.
C'est une grâce, on va le voir un peu plus loin. Dieu, il s'inquiétait, puis il a dit, c'était pas bon qu'on soit seul, puis il faut que je fasse une compagne qui est pareille comme lui, puis ça va être son aide. Puis là, Dieu, il a dit, comme on voit dans ce passage-là que c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi l'homme quittera son père à sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Ça, là, c'est bien avant les religions. Là, on parle de ça au début de la création. Il y avait juste Adam, puis là, il a créé Ève, Puis il n'y a pas d'autre monde, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de race, il n'y avait pas de langage différent. Il n'y avait rien que deux personnes qui étaient là, puis Dieu a décrété son commandement, que les deux deviendraient qu'une seule chair. C'est pas une question de race ni de religion, c'est une parole du début de la création, un des commandements de Dieu, une déclaration de Dieu. Là, ça nous dit, Dieu institua le mariage. Le mariage qui veut dire l'unification entre deux êtres. Deux êtres humains complètement distincts. Là, dans le cas de Ève, elle sortait d'Adam, mais dans le reste de l'histoire, c'est des deux êtres complètement, deux familles différentes, puis on s'est rencontrés, puis c'est tout dépendant de chaque personne. Il y en a qui étaient romantiques, il y en a qui étaient plus imposés, parce que il y a eu des mariages qui étaient imposés, mais c'était quand même deux êtres qui se mariaient, puis que là, il y a eu une soudure qui s'est faite entre les deux. Puis c'est pas fait par n'importe qui, c'est pas l'homme qui a fait ce soudure-là. C'est Dieu qui a uni ces deux êtres-là ensemble, puis ils sont soudés pour la vie. Deux êtres soudés par Dieu, deux êtres unis pour la vie. Ça, c'est une confirmation-là de ce que je vous dis là. C'est dans Matthieu, Jésus lui-même a donné une parole. Il dit dans Matthieu 19, le verset 4, Jésus dit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, puis les deux deviendront une seule chair. » Jésus lui-même dit que cette phrase-là, c'est Dieu qui l'a dit. Alors, c'est important de faire une remarque sur ce point-là, parce que, dans la Genèse, c'était pas évident de savoir qui a mentionné cette phrase-là. Ça dit qu'il avait créé l'homme et la femme. Puis là, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Mais ça nous disait pas qui a prononcé cette phrase-là. Parce que c'était l'homme qui est en train de parler au verset 23. Puis le verset 24, il dit, Jésus lui-même a dit, il a répété cette phrase-là, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ça dit que c'est le Créateur qui a prononcé cette parole-là. Puis là, le verset 6, Jésus dit, « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont qu'une seule chair. » Ils sont plus deux personnes, même si on voit quand même deux êtres qui sont là, le fait qu'ils ont été soudés par Dieu, Dieu les a unis, ça nous dit que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est Dieu qui a joint ces deux êtres-là. Il y en a qui vont dire, oui, mais ils ont couché ensemble, puis c'est ça qui les unit. On va le voir un peu plus loin. La pensée, est-ce que juste le fait d'avoir une relation sexuelle nous mariait? On va le voir. Ben, dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Mais l'idée, c'est que Dieu a donné une directive, un commandement, que l'homme devait quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, que les deux deviendraient une seule chair. Ça nous dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Maintenant, à cause du cadeau de Dieu, puis de la grandeur de l'amour de Dieu, puis le désir de Dieu de vouloir que ses créatures puissent se sentir bénies de sa part, Dieu a mis un commandement dans les 10 commandements pour protéger le mariage. Il a donné le commandement pour préserver l'union sainte du mariage. C'est un acte sacré. C'est Dieu qui a uni ces deux êtres-là. C'est un acte surnaturel. Autant qu'on vit au monde, c'est surnaturel. Dieu a créé pour que l'enfant vienne dans le ventre de sa mère, puis il ressorte dans la vie, puis il se met à respirer. Tout ça, c'est un miracle quand même. Mais de souder deux âmes ensemble, c'est aussi un miracle que Dieu fait. Puis que les deux, c'est de voir qu'il y avait deux êtres distincts, puis devant Dieu, ils ne forment qu'un. Puis là, Dieu a donné le commandement pour protéger le mariage. Dans Exode 20, le verset 14, il dit, « Tu ne commettras point d'adultère. » L'adultère, c'est un acte d'infidélité, c'est un acte, parce qu'on le voit au début, que les deux devaient quitter père et mère, s'attacher à sa femme, puis devant Dieu, il faisait comme un vœu devant Dieu de vouloir être unis pour la vie. C'est ça qui était dans la pensée, que les deux voulaient s'unir devant Dieu pour vivre leur vie ensemble. C'est ça qui est le mariage. C'est super beau. Puis là, Dieu dit, trompez-vous pas l'un l'autre. Soyez fidèles à un et à l'autre. C'est ça qui est le but de ce commandement-là. Pour préserver cette union bénie de Dieu. Le premier bien le plus précieux que l'homme a reçu, c'est sa propre vie. C'est une bénédiction qu'on a de Dieu d'être vivant, d'être là dans ce monde, puis de pouvoir vivre, puis encore plus de pouvoir connaître notre Dieu, puis pouvoir marcher avec, puis pouvoir avoir l'espérance de vivre la vie éternelle. C'est extraordinaire, ce plan-là. Mais le deuxième bien le plus précieux que l'homme a, c'est la compagne que Dieu lui a donnée. Dans Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia, gloire à Dieu. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Merci Seigneur pour ma femme que tu m'as donnée. Alléluia, gloire à Dieu. Dans le Proverbe 31, 10, il dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Il faut être reconnaissant. Il faut pas prendre les choses comme du acquis. C'est là qu'il y a un problème. Quand les hommes prennent pour acquis qu'ils ont leur femme, puis que la femme est là, puis elle doit être soumise, puis elle doit faire ce que lui décide, puis là, il y a pas le bonheur qui serait supposé d'être là. Faut premièrement que l'homme apprécie le cadeau que Dieu lui a fait d'avoir une compagne. C'est une bénédiction de Dieu. Elle vaut plus que des perles. T'as beau avoir les richesses de ce monde, si t'es seul dans la vie, t'es un homme errante. Je dis pas qu'il y a juste qu'avec une femme que tu peux sortir de ton errance, mais disons que ça a l'air d'être deux valent mieux qu'un, comme d'autres versets peuvent dire. J'ai lu une pensée sur Internet qui parlait du mariage, juste une phrase. Le mariage n'est simplement pas pour toi. Oui. Tu te maries pas pour te faire plaisir, tu te maries pour rendre quelqu'un heureux. Ça fait toute une différence parce que marié dans un but égoïste que tu penses que c'est juste parce que je suis moi, elle, avoir mal donné, bien entendu, là, je la prends puis c'est mon meuble de plus dans la maison, c'est mon trophée. Il y en a qui pensent comme ça. Cette valeur, ils détruisent toute la belle relation d'amour qu'ils auraient pu avoir avec le conjoint. C'est une question d'attitude. Comment est-ce qu'on accepte la pensée de Dieu, puis comment est-ce qu'on est prêt à vouloir que vivre ce que Dieu nous annonce. Quand que Dieu nous a dit, qui peut trouver une femme? Il dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ouais. Dieu a dit ça. Est-ce que Dieu est menteur?
Non.
Fait que si je suis pas heureux puis j'ai pas de bonheur, c'est pas parce que Dieu est pas menteur, c'est parce que c'est moi qui ai un problème.
Ouais.
Moi? Ou l'autre qui est avec moi, parce que c'est à deux que ça se bâtit, un mariage. Puis si les deux travaillent un contre l'autre, puis en compétition, puis en division, puis en chicane, c'est sûr que là, le bonheur, il va être de la misère à s'installer dans ce foyer-là. Puis si on est dans ce cas-là, mais il faut demander de l'aide, tout simplement, parce qu'il y a du monde qui savent comment ça marche, un mariage. Puis allez chercher des conseils pour pouvoir ajuster votre mariage pour que vous soyez heureux. Les deux vont l'être heureux, parce que Dieu va mettre sa bénédiction, c'est la volonté de Dieu qu'on se pose comme ça. Que dit la Bible sur le mariage? Comment devenait-on marié? J'ai entendu sur Internet des idées qu'aussitôt que quelqu'un avait une relation sexuelle dans l'Ancien Testament, il était considéré marié. Mais c'est faux. Je dis pas qu'il n'y a pas de relation sexuelle. Les gens dans ce temps-là, il apprenait à découvrir la révélation de Dieu. Au fur et à mesure, les 10 commandements sont pas arrivés au début de la création, sont arrivés 3000 ans plus tard. Mais la conscience, je m'en suis aperçu en faisant l'étude, la conscience de chaque être humain, ce qu'ils ont reçu depuis Adam et Ève, quand ils ont eu l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la conscience de chaque être humain les a gardés, puis Ils avaient la conscience d'être fidèles à leur époux, à leur épouse. C'était là, je l'ai vu dans d'autres passages, un exemple quand Abraham marcha. Abraham avait la foi, les autres, là, il dit, moi j'arrive d'un pays, je ne sais pas si on a la crainte de Dieu dans ce pays-là. Il dit à sa femme, dis que t'es ma sœur, parce que c'est sûr qu'ils vont me tuer pour t'avoir. Puis il arrive là, puis le monde avait la conscience de Dieu, puis il savait que Dieu était là, puis il n'aurait jamais touché à cette femme-là, puis ils ont dit à Abraham, pourquoi tu nous as trompés en disant que c'est ta sœur? On n'y aurait pas touché. On voit là-dedans que la conscience d'Adam, depuis Adam et Ève était là, bien vivante, puis Dieu servait des consciences des humains pour les garder dans un certain respect de beaucoup de choses, comme le mariage. Puis il n'aura pas touché parce que c'était sa femme. Puis c'est arrivé deux fois, cet événement-là. Puis là, contrairement à ce que plusieurs croient dans l'Ancien Testament, l'action de coucher qu'une femme ne les unissait pas automatiquement. Ils devaient avoir auparavant le consentement de leur père. Pourquoi qu'on dit ça? Parce que dans ce temps-là, c'était les parents qui mariaient leurs enfants. C'était les parents qui décidaient si on mariait notre fille ou on s'en la mariait pas. Même dans le temps de Jésus, c'était comme ça. Paul, il l'explique dans ses écrits. Il dit, si quelqu'un croit que c'est déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, qu'il la marie. Si ta marie, tu fais bien, mais si ta marie pas, tu fais mieux. Mais il expliquait des raisonnements pour dire que même dans ce temps-là, c'était les parents qui décidaient qui se mariait, qui se mariait pas. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette mentalité-là. C'est pour ça que c'est un peu différent. Il y a un autre système qui est là, c'est le système des lois et des règlements que Dieu, comme j'ai expliqué dans une autre étude, le système de justice, puis là, les systèmes qui sont en place, il faut se soumettre aux autorités qui sont établies. Puis dans chaque pays, tu as des normes pour le mariage. Il faut que tu aies un petit cours ou des explications, puis il va falloir que tu aies des témoins, puis là, tu signes des papiers. Ça, c'était la méthode d'aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, les parents avaient le mot à dire pour le mariage. Deux personnes qui décidaient de s'unir, ça nous dit dans le commandement, il fallait que les deux... L'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, puis les deux deviennent qu'une seule chair. Ça, c'était le but à atteindre, mais la volonté des autorités en place de ce temps-là, c'était qui? Les parents. C'est les parents qui voyaient cela. Puis ça nous explique dans un passage, parce que là, je voulais, par cette explication-là, comprendre, pour défaire un faux raisonnement, en disant, aussitôt qu'ils ont couché ensemble, ils sont déclarés mariés. Non, c'était pas de même. Dans Exode 22, le verset 16 et 17, qui nous dit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, ça, on parle d'une fille qui n'est pas promise à personne, n'est pas fiancée, pas engagée envers un autre homme. S'il a séduit et qu'elle couche avec, il payera sa dot puis elle prendra pour femme. Dieu, il dit ça. Il va falloir que le gars, il paye sa dot, puis il doit la prendre pour femme. Parce qu'il l'a séduit. Il a parlé, puis il l'a attiré pour aller coucher avec. Puis elle a embarqué. Donc, elle était consentante. Elle y était. Mais est-ce qu'ils ont été déclarés mariés automatiquement? Non. Pourquoi? Parce que l'autre verset, le verset 17, dit, « Si le père refuse de lui accorder... il payera en argent la valeur de la dot des vierges. » On voit que le père avait le pouvoir de dire non à cela. Puis c'est le même pattern-là de dire que les parents avaient le dernier mot. J'ai lu justement un matin, mais ça, c'était pas inclus dans mes notes, mais je l'ai lu un matin dans un autre passage dans l'Ancien Testament, au niveau, si une jeune fille faisait un vœu, elle s'engageait devant Dieu à faire telle affaire, si elle était en cause chez ses parents, puis qu'elle habitait sous le toit de ses parents, le père pouvait dire « Non, ton vœu ne compte pas », puis ça venait de tomber annulé. Puis si la femme était promise à quelqu'un, c'est en cause la même affaire. Tant qu'elle reste chez ses parents avaient l'autorité sur la personne, pouvaient annuler son vœu. Même, bon, ça, tout ça pour expliquer que les parents étaient l'autorité qui décidait « Est-ce que le mariage était valable ou non ?» Cet homme a couché avec ma fille, il l'a emmenée, mais moi je dis non, je veux pas qu'il aille avec. On voit un exemple de ça dans la Bible, dans Genèse 34, le verset 2. On voit qu'il y a une fille, Dina, Elle a été aperçue par une personne d'un peuple étranger, Sichem, fils de Hamor. Elle fut aperçue par Sichem, fils de Hamor, c'est le prince de ce pays-là. Il enleva la Dina, il coucha avec elle, il la déshonora. Puis là, après ça, son cœur s'est attaché à Dina. C'était la fille de Jacob. Jacob, c'est Israël. Il y a eu 12 fils, les 12 tribus d'Israël. Puis il y a eu une fille qui s'appelait Dina. Puis là, il y a un prince d'un pays, il a pris la fille, il a couché avec. Puis là, il l'a déshonorée parce qu'il n'a pas demandé la main de la fille à ses parents. Puis ses parents n'avaient pas accepté d'y remettre. Qu'est-ce que ça a produit? Lui, il est tombé en amour avec. Puis là, il a su parler à son cœur. Puis là, il voulait la prendre comme femme. Puis là, il est allé revoir Sichem. Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille, puis si on irait voir le reste, bien, ils ont demandé à Jacob de la donner pour épouse. » Puis Jacob a dit, « Non, on ne peut pas faire ça, parce que nous, on est des circoncis, puis vous autres, des incirconcis. » C'était deux peuples différents. Puis là, les autres apprêtent même à circoncis. Puis finalement, le père, Jacob, ne voulait pas qu'elle se marie avec. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ses enfants à Jacob? Ils ont été voir cette famille-là pendant qu'eux autres avaient accepté d'être circoncis. Ils ont tous été mis à mort parce qu'ils avaient déshonoré sa sœur. Ils n'ont pas dit, automatiquement, s'ils ont couché avec, ils sont mariés, on la laisse avec eux autres. De coucher avec une personne ne lie pas automatiquement au mariage. Il fallait qu'il y ait le consentement des autorités, des parents, puis il fallait que les deux aussi ils soient d'accord. Là, on voit dans ce cas-là, Dina, elle est emportée, c'était en désaccord, elle a été séduite. Après ça, il voulait la marier. Là, elle l'avait accepté, mais Jacob n'a pas décidé que c'était correct. Fait que, il aurait pu dire, j'accepte que tu la maries, mais il n'a pas accepté, elle n'a pas déclaré mariée. C'est ça qui est le point que je veux qu'on retienne. Coucher avec une personne ne fait pas de toi automatiquement que tu es marié avec la personne. C'est la même chose que si c'est avoir une prostituée, tu as des relations sexuelles avec une prostituée. Ah, est-ce que la prostituée est mariée avec 2000 personnes qu'elle a passées dans l'année? Non. C'est, dans ce temps-là, il y en a qui, même aujourd'hui, il y en a qui pensent que c'est ça, mais c'est pas ça. Lorsqu'ils se mariaient, les deux êtres devenaient qu'un. Ils se devaient d'être fidèles un envers l'autre pour le reste de leur vie. C'est ça qui est le but du mariage. On l'entend aujourd'hui dans nos déclarations quand on se marie. Pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Mais comme un meurtre, c'est la destruction d'une vie, l'adultère, c'est la destruction de la vie de famille. C'est la destruction du couple. Dieu a mis un commandement pour protéger. Là, il dit, s'il y en a un des deux qui fait adultère, c'est la destruction de cette union-là. Ils peuvent quand même vouloir rester ensemble puis de redonner une chance. Je dis pas qu'il y a, il y a pas de possibilité, mais à cause de l'adultère, c'était quelque chose de grave. Dans ce temps-là, dans le temps de ce que Dieu a donné ses commandements puis, et la loi des Juifs, c'était très sévère. Bien plus qu'aujourd'hui. La loi de Moïse frappait les adultères de la peine de mort. Dans Deutéronome 22-22, ça dit, « Si on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme, puis la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. » Fait que quand on voit l'histoire de la femme adultère qui était pour la lapider dans le Nouveau Testament, c'était pas juste la femme qui devait être lapidée, le gars aussi. Les deux étaient en adultère. Mais on y pense jamais à ça, parce qu'on pense toujours que c'est rien que la femme qui mangeait le châtiment. Non, dans la Bible, ça parle aussi de l'homme. Puis si un homme couchait avec une femme fiancée, parce que les fiançailles existaient dans ce temps-là, c'était comme une promesse, il était comme consacré pour un temps, puis ils décidaient de pas se marier tout de suite, là, mais plus tard, quand ça viendra le temps, ils vont s'unir. Mais en attendant, ils appelaient ça des fiançailles, en traduction francophone, c'est le mot fiançailles. Fait que ça nous dit, si un homme couchait avec une femme fiancée, ils étaient tous deux mis à mort. Sauf si la femme a crié pour dire que c'est un viol. Comment est-ce qu'on voit ça? On voit ça dans Deutéronome 22, le verset 23 à 25. Ça nous dit, si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville puis couche avec, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez puis ils mourront. La jeune fille pour ne pas avoir crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme a rencontré la jeune femme fiancée, puis lui a fait violence, puis a couché avec elle, mais l'homme qui a recouché avec elle sera puni seul. Il sera puni seul de mort. Ça veut dire que là, le gars, il l'avait violée, elle a crié. S'il était dans la ville, elle a crié, le viol aurait été empêché. Mais s'il est dans le champ, elle a crié, puis pas personne, mais au moins elle a crié, fait que sa vie peut être épargnée. C'est la différence qu'il y a entre se faire violer puis être consentante de coucher avec un autre. Ouais. En criant, elle venait de dire qu'elle n'était pas consentante, puis l'autre aurait dû respecter ça. Dans les enseignements, dans les proverbes, il y en a au moins trois endroits que tu vois plusieurs versets qui parlent de l'adultère. C'est comme si la Bible elle nous a donné des enseignements clairs pour prévenir de l'adultère. Tu dois rester marié, tu dois rester fidèle. Puis là, dans ces proverbes-là, ça nous dit dans le proverbe 7, j'en ai pris un des proverbes, à partir du verset 18. Là, ça nous parle d'une femme prostituée qui aime coucher avec les hommes. Mais qu'elle est mariée, puis qu'elle s'en, elle rencontre un gars, puis elle cherche à le gagner pour qu'il aille coucher avec. Puis là, elle dit, là, j'aurais pu commencer plus avant ce passage-là, mais là, ça a été pas mal long à le lire. Mais je commence au verset 18 qui nous dit, elle dit, « Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. » Car, le verset 19, mon mari n'est pas à maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac et l'argent. Il ne reviendra pas à la maison qu'à la nouvelle lune. Fait qu'on a du temps en masse pour s'amuser. 30 jours. Verset 21, elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre comme un bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts, puis il descend vers les demeures de la mort. Imaginez-vous un gars tout seul qui s'en va vers une femme qui est habituée, elle aime ça, le sexe. Son mari est parti. Mais elle est en manque, dans d'autres expressions québécoises, est en chaleur. C'est, la sexualité, là, c'est là. Tout le monde a la partie de sexualité. Si t'es un homme, t'as la sexualité d'un homme. Si t'es une femme, t'as la sexualité d'une femme. Puis ça, on peut pas l'enlever, sauf qu'on doit travailler avec ça. On doit contrôler nos appétits, puis nos élans, puis notre corps. Je ne donnerai pas un cours de sexualité un matin, mais ce qui est là, par exemple, le plus important que quand que la personne, tu sais qu'elle est mariée, toi, t'es marié, ou tu ne l'es pas, puis elle l'est, ou même si on sera deux célibataires, ça revient au même, parce qu'une femme qui coucherait avec plusieurs hommes tout le temps, comme ça, c'est une prostituée. Ça crée le même problème. que tu sois adultère ou déclaré impudique, c'est la même affaire, c'est le même résultat. Dans le Nouveau Testament, il en parle. Les adultères n'entreront pas dans le royaume, ni les impudiques. Là, elle a dit, quand elle a essayé de séduire ce gars-là, « Viens, on va avoir du plaisir, la volupté, toute la nuit. » Puis là, pour d'autres séductions, « Mon mari n'est pas à la maison. » Je suis tout seul. Je fais pitié. Je suis tout seul. Comment est-ce qu'on peut être attiré à vouloir aider quelqu'un qui commence à te parler de façon à pour ce que tu apprennes en pitié, puis toi, en bon samaritain, tu la regardes, et qu'a fait donc pitié? Là, tu commences à développer des sentiments de vouloir l'aider. Elle crie à mon secours. Puis il est parti pour un voyage lointain. Il m'a abandonné. Je suis tout seul dans la vie. Puis encore plus fort que ça, il a pris avec lui le sac puis l'argent. J'ai rien à manger. J'ai déjà entendu des témoignages jusqu'à des pasteurs qui ont été exhortés une femme qui était seule. Pas d'argent, il allait là pour l'aider. Il y en a un des cas que j'ai entendu que la femme, sa robe de chambre s'était ouverte puis était tout nue en dessous. Puis le gars, il était tenté, mais il a dit non. Puis il y en a d'autres, c'était le contraire. Ils ont tombé dans le péché à cause de la tentation. Elle était dans le besoin. Hein? Elle est seule, elle est abandonnée, elle n'a pas d'argent. Quelqu'un qui est bien, tu sais, tu t'en vas là pour l'aider, tu t'attends pas que tout le reste va se développer sur le coup. Mais quand tu vois que c'est là, là, t'es rendu pas mal loin. Là. Normalement, comme on devrait dire, on devrait y aller à deux pour encourager quelqu'un tout seul la main. Hein, quoi? Oui, c'est ça. On a juste un seul cadeau à développer, les autres, on les oublie. Amen. Elle le séduisit à force de paroles, puis elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Puis là, il est parti comme une brebis qui s'en va à l'abattoir. Puis ça, ça nous dit que le chemin des adultères, comme ça, ou des prostituées, ou de ces choses semblables, c'est, il dit, « Elle en a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. » Parce qu'il n'y a pas juste de briser la vie de couple, ça c'est une affaire. Mais briser ta communion avec Dieu à cause du péché, ça c'est une autre affaire. Puis ça nous dit dans le verset 27, « Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts, puis il descend vers les demeures de la mort. » Dieu a dévoilé dans... Là, je continue parce qu'il y a d'autres idées, il faut que j'apporte. Dieu a dévoilé qu'il haïssait l'infidélité puis la répudiation. On voit ça dans Malachie, le chapitre 2, le verset 13. Ça nous dit, « Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gisements, en sorte qu'il n'y a même pas regard à vos offrandes, puis qu'il ne peut rien agréer de vos mains, puis vous dites pourquoi. » Là, Dieu répond, « Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. » Là, la femme de l'alliance, c'est ça, là. Les deux avaient décidé de vouloir être qu'une seule chair. Dieu les a unis ensemble. Puis là, plus tard dans leur vie, il est infidèle à cette femme-là. Puis là, il cherche d'autres femmes. Il dit, « Nul ne fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. » Puis là, il nous parle d'Abraham. Puis pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Mais Dieu n'approuvait pas ce qu'Abraham a fait quand il est allé voir Agar puis qu'il a eu d'autres enfants. Un autre enfant. C'est pas lui qui était l'héritier. C'était pas de lui que Dieu parlait. C'est une promesse que Dieu donnera un enfant à Abraham, puis c'était à travers de Sarah, sa femme. Sarah a donné sa servante, rendue à 90 ans, elle dit, on ne l'aura jamais. Puis elle a donné sa servante, puis il a couché avec, puis elle a eu un enfant, mais c'était pas celui-là. Puis Dieu, il donne ça en exemple. Dieu, il dit, là, il parle d'infidélité envers notre... Parce qu'il est témoin entre notre femme de notre jeunesse. en toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. C'est la femme de ton alliance. C'était ta compagne. Puis il fallait qu'il reste fidèle à sa femme, à Sarah. Puis il dit, lui, il l'a fait pour chercher la promesse, mais Dieu n'approuve pas ça. Là, au verset un peu plus loin, il dit, « Prenez donc garde dans votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. » Car, le verset 16, « Je hais la répudiation. » La répudiation, c'est le divorce. Dieu dit qu'il haït les divorces, puis il dit « Je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, c'est la même chose. » Prenez donc garde dans votre esprit et ne soyez pas infidèles. Dieu, dans ce passage-là, il révèle son cœur, son plan. Son plan initial, c'est que les gens puissent s'unir et demeurer ensemble pour toute la vie. Puis qu'il n'aimait pas ça quand les gens étaient infidèles. Il haïssait ça. Puis là, il nous met en garde de ne pas être infidèle envers la femme ou l'homme de notre jeunesse, celle qu'on a mariée devant Dieu, puis qu'on est soudés, puis qu'on est devenu qu'un. Ça nous dit, prenez donc garde dans votre esprit, ne soyez pas infidèles. Puis là, on voit un peu plus loin, parce qu'on va rentrer dans des versets dans le Nouveau Testament. Jésus a renforcé cette idée. L'idée qu'il ne veut pas de répudiation, il ne veut pas de divorce. Jésus veut pas qu'on se divorce. Il veut qu'on reste fidèle. Il nous dit dans Matthieu 5, 31, que celui qui répudie sa femme, il a été dit dans la loi de Moïse, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, là, c'est Jésus qui parle. Je pense que c'est important qu'est-ce que Jésus dit. Il dit que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, il expose à devenir adultère. Celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Là, dans ce passage-là, c'est en train de nous dire que la seule raison pourquoi qu'un gars aurait eu le droit de répudier sa femme, si elle aurait été infidèle. C'est ce qu'il nous dit. Il dit, moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf en cas d'infidélité, il l'expose à devenir adultère. Ça veut dire, si elle a fait l'infidélité, puis elle est responsable de l'infidélité, fait que tu ne l'as pas exposé à devenir adultère, puisqu'elle l'est déjà. Puis celui qui répudiait la femme qui a été, celui qui mariait la femme qui a été répudiée, il est automatiquement en adultère parce qu'elle a été répudiée pour cause d'adultère. Donc, Jésus, il a renforcé l'idée qu'il veut qu'on demeure fidèle à notre femme de notre jeunesse. Il veut qu'on considère cette union-là plus importante que toutes les autres. On en a juste une, puis il faut la garder, la conserver. Puis il dit, même si la loi de Moïse a prescrit de répudier sa femme, Jésus a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que ça a été mis dans la loi de Moïse. Il dit, au commencement, ça n'était pas comme ça. Puis là, il nous dit, si tu la divorces pour une autre raison que l'infidélité, tu l'exposes à devenir adultère, puis celui qui marie une femme qui a été répudiée tombe automatiquement en adultère. Dans le Nouveau Testament, il y a deux raisons qui permettent de se remarier sans être déclaré adultère. La première, on voit ça dans Romains 7, le verset 1. Oui. Ignorez-vous, frères, que je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Ça, on voit l'explication de l'apôtre Paul, comment est-ce que lui, pour expliquer quelle était la pensée de Dieu au niveau du mariage, dans la Nouvelle Alliance, il dit c'est sa même affaire que dans la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse parlait de ces règlements-là. J'en ai parlé un peu, mais il y en a beaucoup de versets. Puis j'ai pas tout amené tous les versets. Je voulais juste qu'on comprenne la pensée des apôtres, de Jésus, sur le mariage. Donc, dans ce passage-là, ça nous dit, comme le dit la loi, quand tu es marié, tu es soudé pour la vie, puis la loi te garde unis ensemble tant que un des deux est vivant. Tant que les deux sont vivants, doivent rester soudés ensemble. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a uni et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Puis là, ils ont mis la loi pour renforcer cette idée-là. Faites pas l'adultère. Puis, si tu fais adultère, il y a des conséquences. Puis, tu dois rester. Puis, tu es uni à ton mari tant que t'es l'un des deux qui est vivant. Puis, il dit, s'il y en a un des deux qui meurt, là, l'autre est libre de se remarier. Elle transgresse pas la loi. Elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre, si l'autre est décédé. Jésus a dit aussi que la deuxième raison acceptable d'un remariage est le divorce pour cause d'adultère. Comme j'ai mentionné tantôt, t'exposais ta femme à devenir adultère si tu la divorces. Sauf si elle a fait infidélité, elle l'est déjà adultère. Fait qu'elle, en réalité, ne peut pas se remarier avec un autre tant que son mari est encore vivant. Sinon, s'il y en a un qui la marie, tombe automatiquement en adultère, parce qu'elle est encore liée avec son mari qu'elle avait au début. Puis là, dans Matthieu 19, c'est quasiment la même chose, mais avec une petite nuance, au verset 7. Pourquoi donc lui dire-t-il que Moïse a prescrit de donner à la femme une lettre de divorce puis de la répudier? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, puis qui en épouse un autre, il commet un adultère. Ça veut dire que le gars, il divorce sa femme pour X raisons, peu importe les raisons, sauf l'infidélité. Il dit, si t'en épouses un autre, tu tombes en adultère. Tu n'as pas le droit de te remarier tant qu'elle est encore vivante. La seule manière que tu as le droit de la remarier, c'est si elle a fait adultère. Parce que ça dit... ça dit... Celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, puis qui en épouse un autre comme un adultère. Ça veut dire, si c'était pour la raison d'infidélité... Là, il en épouse un autre, il n'est pas en adultère. C'est juste si c'est la cause n'est pas l'infidélité, si tu en épouses un autre, tu tombes en adultère. Puis là, pour aller un petit peu plus loin, pour nous aider à comprendre un peu quoi faire dans le mariage quand on avance dans notre vie, puis qu'il y a des choses difficiles qui se vivent dans un couple, Paul enseignait que Jésus a donné une marche à suivre en cas de séparation. Ça peut arriver qu'on se sépare. Si la femme se fait abattre par son mari, c'est inacceptable. Mais c'est pas une raison pour divorcer puis se sentir libre de se remarier qu'un autre. Mais qu'est-ce qui arrive? Le conseil du Seigneur dans le cas de quelqu'un qui se sépare, on voit ça dans 1 Corinthiens 7, le verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Là, c'est le Seigneur qui parle. À ceux qui sont mariés, là, le Seigneur nous parle, là, ce matin. Il dit que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, puis que le mari ne répudie point sa femme. Ça veut dire que ça part. Il dit, si t'es marié, sépare-toi pas juste pour un oui et pour un non. Mais si tu te fais abattre, c'est sûr que faut que tu te sépares. Sinon, il va te tuer. Le syndrome de la femme battue, là, la Bible n'est pas pour ça. Faites exprès de vous faire battre. Continuez. Non. Tu peux te séparer, mais qu'est-ce qui arrive si tu t'es séparé? Qu'elle demeure sans se remarier. Tu te sépares, mais tu te remaries pas. T'attends, tu pries. Prie que Dieu touche ton cœur à ton mari, puis que le problème soit réglé, puis que retournez ensemble. C'est ce que ça dit. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, qu'elle se réconcilie. C'est ça le plan de Dieu. Puis il dit, c'est le Seigneur qui nous a dit ça, là. Il dit, réconcilie-toi avec ton mari. Mais t'es pas obligé d'y retourner si le problème n'est pas réglé tout de suite, là. Mais tu peux prier, puis Dieu va arranger les affaires. Puis que le mari ne répudie point sa femme. On continue, faire ça rapide. Paul a dit aussi, quoi faire si nous sommes mariés avec un non-croyant? Ben, ça arrive qu'un chrétien est marié qu'une femme qui est non-croyante, ou le contraire, une chrétienne est mariée qu'un gars non-croyant. Pas parce qu'on a choisi un non-croyant en passant, parce que la Bible nous enseigne d'un autre passage que si tu veux te marier, marie-toi dans le Seigneur. Va pas chercher une personne dans le monde. Le conseil de Dieu, c'est que tu te maries dans le Seigneur. Si on cherche quelqu'un dans le monde, on cherche le trouble. Je dis pas que le gars se convertira jamais, mais tu risques aussi d'avoir de gros problèmes dans ta vie. T'es mieux d'obéir aux principes de la Bible puis d'en choisir une qui est chrétienne. Mais si t'as accepté le Seigneur, puis ta femme ou ton mari n'a pas accepté le Seigneur, fait que là, un croyant vit avec un non-croyant, une non-croyante, ou mâle ou femelle. Puis là, ça nous dit, au 1 Corinthiens 7:12 qui nous parle de ce passage-là. Puis là, c'est l'apôtre Paul qui donne son avis sur cette situation-là. C'est pas Jésus qui a parlé, c'est l'apôtre Paul. Il dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Reste avec ta femme ou avec ton mari, même si toi t'as accepté puis elle n'a pas accepté, lâche-la pas pour ça, là. Tu peux prier pour cette personne-là, puis elle va venir au Seigneur. Faut que tu gardes la foi que Dieu va agir. Puis si une femme a un mari non-croyant, puis qui consente à habiter avec elle, qui a répudié point son mari? Puis dans ce passage-là, est bon parce qu'on voit que ça pouvait être un homme qui répudie sa femme ou ça pouvait être une femme qui répudiait son mari. C'est pas juste les hommes qui avaient le droit de répudier leur femme. Dans ce passage-là, ça vient de nous dire que la femme répudie point son mari. Donc, s'il y en a un des deux qui est non-croyant, reste avec, prie pour lui. Attends-toi à ce que Dieu fasse un miracle. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, puis la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. Tandis que maintenant, ils sont saints. Ça, il faut comprendre la portée de cela. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit, l'autre ne l'est pas. Dans ta maison, c'est en même un lieu saint. Ton mari est touché par l'effet du Saint-Esprit, puis sa vie va changer. Je te dis pas qu'il va être chrétien tout de suite, du jour au lendemain. Mais il y a un effet qui se fait. Puis nos enfants, c'est la même chose. Ça dit que le non-croyant va être sanctifié par le frère. Pas qu'il va être sauvé en disant, moi j'ai accepté, toute ma fille est sauvée. C'est pas ça que ça veut dire. Le salut, il faut que tu l'acceptes. C'est par la foi. Faut que tu le reçoives. Mets-t'es sous l'effet de la sainteté de l'autre. Puis ça va changer sa vie. Puis les enfants aussi, leur vie vont être changée. Ça va sentir meilleur dans la maison. Mais le verset 15, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, puis le frère ou la sœur sont pas liés dans ces cas-là. Là, j'ai une révélation qu'il faut partager. Pourquoi? Parce que ça nous dit que là, t'es marié avec un non-croyant, tu veux le garder, tu veux rester avec, tu pries pour lui, puis lui, il dit, moi j'en ai assez de ta religion, puis je te laisse, il se sépare. Là, ça nous dit que le frère ou la sœur est pas lié dans ce cas-là. Là, avec nos facultés très imaginatives, il y en a qui ont dit, ah, il est pas marié, donc elle a le droit de se remarier. Elle est pas lié. Ça dit, elle est pas lié dans ce cas-là. Le seul petit hic, ça, c'est parce que c'est en français que ce mot-là est là, le mot « lié ». Dans le grec, il y a une nuance. C'est pas le même mot. Quand il dit « Es-tu lié une femme? » Ne cherche pas une femme. « Es-tu lié par le lien du mariage? » Il y a un mot grec qui parle « marié ». Tandis que là, dans ce passage-là, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. C'est un autre mot grec qui veut dire « sous la domination de qu'un tyran ». Le frère ou la sœur, si l'on veut s'en aller, laisse-les partir. Le frère ou la sœur est dégagé de la tyrannie de son mari qui fait le trouble. Ça dit pas qu'il est libre de se remarier. Ça fait une grosse nuance parce qu'il y a eu des enseignements que j'ai déjà entendus, puis c'est ce qu'ils ont dit. Mais ce verset-là est clair que c'est pas le mot lié de frère ou la sœur n'est pas lié dans par comme on dirait, il est pas lié par le lien du mariage. C'est pas ça que ça dit. C'est qu'il est pas lié. Il est comme libéré du tyran, de son oppression et de sa méchanceté ou de ses effets négatifs. Puis, tu es libre de servir le Seigneur, mais tout en respectant les autres points qui dit, tu es lié parce que la loi te garde lié à ton mari tant qu'il est vivant. Est-ce que je dois prier que mon mari meure pour être libéré? Pas du tout, parce qu'il y a un passage qui dit, tu ne tueras point. Mais, je dois prier pour que Dieu le touche, puis que je me réconcilie avec mon mari, puis que là, on redevienne une seule chair, mais béni par Dieu, parce que les deux servent le Seigneur. Hallelujah. Un autre passage, il faut faire une petite précision. J'ai lu un passage sur Internet qui parlait de la femme samaritaine. Puis pour essayer de démontrer que la femme samaritaine, parce que dans Jean 4, 16, ça nous dit, Jésus, il dit, « Va, appelle ton mari. » Il est en train d'y parler, puis il dit, « Va, appelle ton mari. » La femme répondit, « J'ai pas de mari. » Jésus lui a dit, « T'as raison de dire que t'as pas de mari, car t'en as eu cinq maris. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu dis vrai. » Là, Jésus a une parole de connaissance, puis il révèle à une femme étrangère. Puis Jésus savait qu'est-ce qu'il était pour enseigner. Là. Il dit, « Va chercher ton mari. J'en ai pas de mari. » C'est vrai que l'homme qui était avec n'était pas encore marié. Mais Jésus, il a révélé une parole de connaissance, t'en as eu cinq, Marie. Est-ce que Jésus aurait dit que t'as eu cinq, Marie, ça sera en adultère, les cinq ensemble? Pas du tout. C'est que la femme a eu cinq, Marie, l'autre mourait, elle s'est remariée, l'autre mourait, elle s'est remariée, t'as rendu au sixième. Il y a eu cinq, Marie, au passé, ça dit dans le texte. Elle n'avait pas encore cinq, Marie, sur le coup, puis il dit qu'elle aurait pu se marier qu'un sixième. Ça tient pas debout, cette affaire-là, mais il y en a qui pensent ça, puis ils ont enseigné ça dans leur doctrine sur Internet. Puis c'est faux. Hein? Elle avait du caractère, ben ouais. Si ça aurait été qu'elle a cinq maris, puis elle en avait un sixième. Mais c'est pas ça. Elle a dit, tu en as eu cinq, puis celle que t'as là, c'est pas ton mari, puis elle a admis. Peut-être qu'elle est en relation avec, peut-être qu'elle l'était pas avec son futur. Mais Jésus le déclara qu'il n'était pas son mari. Peut-être qu'il était à côté. Mais Jésus n'a pas approuvé de péché là-dedans. Il a juste donné une parole de connaissance. Puis il y en a qui servent de ça pour dire, bien, on peut se remarier comme qu'on veut. J'achève. Le Nouveau Testament nous enseigne que l'adultère peut être à d'autres niveaux que de coucher avec une personne mariée. Jésus a enseigné que l'adultère peut être dans nos yeux puis dans notre cœur. Oui. Dans Matthieu 5, 27, ça dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Fait que l'adultère, c'est pas rien quand t'es rendu dans la couchette. C'est toutes les autres idées que t'as eues avant d'y arriver, t'es déjà en adultère. Le regard de convoitise. On voit ce même passage-là dans 2 Pierre 2,14. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Avoir les yeux pleins d'adultère, c'est que la personne se promène, mais est toujours attirée à regarder le sexe des gens, puis à se faire des idées. Je te dis pas que ça arrive jamais, que les regards y arrivent à un endroit que ça n'a pas se poser, mais tu t'enlèves les yeux de là, tu chasses tes idées, tu médites pas ces affaires-là. C'est quand tu médites ces affaires-là, t'es dans le péché. Et je sais par expérience aussi que tu peux être attaqué par un esprit de sexualité qui t'attire à avoir toujours les yeux là-dessus. Même si tu combats, tu as besoin d'une délivrance. le regard qui est attiré peut être affranchi de ça, que tu n'aies plus cette attirance-là. Je vous parle par expérience. Fait qu'il faut combattre pour pas tomber en adultère. Il faut combattre nos regards et nos pensées. Il faut pas accepter que si notre corps tombe là-dessus et qu'on commence à regarder puis à se faire des idées, on est déjà dans la pensée adultère. C'est comme le meurtre, celui qui fait un meurtre, rien que le fait d'haïr est déjà dans la pensée meurtrière. C'est pour cela que j'ai marqué les femmes, parce que le verset s'adresse à des femmes dans ce verset-là, mais ça peut être des hommes aussi. Ils doivent s'habiller d'une manière décente et pudeur, afin de ne pas être une occasion de chute pour les hommes. Il n'y a pas de mystère là. Les gars, normalement constitués, à moins qu'ils soient un eunuque sans aucun effet, sont attirés. Quand les femmes, ils se disent, ils veulent être sexy, mais ça, c'est sexuellement attirante. C'est ça la définition de sexy. Attirante au point de faire chuter les gars dans le péché. C'est ça que ça fait. La Bible nous demande le contraire que d'être habillé sexy. Ça nous dit quoi dans 1 Timothée 2:9? Je veux aussi que les femmes soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur. Cachez vos parties. C'est pas que c'est... J'ai déjà entendu, c'est pas des farces. Une femme dire à une autre femme, deux chrétiennes, une femme de pasteur dire à une chrétienne, « Tu as des atouts, mets-les en valeur. » Aïe, aïe, j'ai quasiment tombé sur le dos quand j'ai entendu ça. C'est en train de dire, soit une attraction sexuelle pour les frères dans l'Église, ben, faut pas oublier que même un frère marié peut avoir des idées, ou même un célibataire, mais ça peut être le contraire aussi, que le gars, qu'il en montre trop, des culottes, tu sais. Bon, mais, faut éviter ces combats-là. Faut pas être une occasion de chute. Faut faire attention. Hein? Oui, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Oui, puis ça, c'est une séduction, justement, c'est un péché.
Ça peut aussi être un jeune homme ou une jeune fille.
Oui, deux ensemble, ou comme l'exemple... Oui, comme l'exemple de la prostituée aussi, qui est attrayante. Là, tout de suite, automatiquement, le gars, il est allumé, puis s'il se laisse aller dans ses pensées, puis il a plein de bonnes raisons de le faire. Tombe dans le piège, puis il s'en va où? Dans le chemin du séjour des morts. Puis l'autre passage dans Romains 13, 14, ça dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » C'est ça qui donne notre vêtement. « N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Ça veut dire « Habillez-vous pas de façon à attirer les regards des autres. » Parce que si tu le fais parce que tu veux être au dernier cri de la mode, tu veux être sexy, tu es une occasion de chute, tu es rendu une tentatrice. Un tentateur, là, c'est le diable. Tu es rendu une provocateur pour faire chuter les autres. C'est l'esprit du mal. Ça dit, revêt-toi du Seigneur, là, puis n'aie pas soin à l'apparence pour attirer les convoitises de la chair. Il me reste juste deux petits passages. N'oublions pas que Dieu veut que le mariage soit honoré de tous, puis que l'on s'abstienne de l'adultère et de l'impudicité. Dans Hébreux 13, 14, ça dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Les impudiques, c'est ceux qui ont des relations sexuelles en dehors du mariage, ou ceux qui sont attirantes sexuellement, et pas habillées avec pudeur, donc être impudique, c'est être une occasion de chute dans le péché. Le mot, c'est porneo en grec, qui fait le mot prostitution. C'est des mêmes racines que prostitution ou pornographie. Parce que quand on parle des regards envieux, n'oublions pas que la chair est très attirée. Les images aussi, pas juste les humains. Parce que là, on va dire, il y en a qui vont dire, ouais, ben là, faut que je me ferme les yeux sur les humains. Pas juste les humains, les images avec. Sur Internet, là, tu peux cliquer juste une simple recherche, soit des pages, des centaines, des mille pages de pornographie, de toutes les sortes. Puis Dieu, lui, il dit, que les faux prophètes, parce que le verset que je vous parle de 2 Pierre 2,14 qui dit qu'ils ont les yeux pleins d'adultère, dans ce contexte-là, ça parle des faux frères, des faux prophètes, des séducteurs, des c'est comme si ça serait le diable dans les ceux qui cherchent ça, là, ils agissent en personne, qui sont condamnés par la Bible. Fait qu'il faut fuir cela, les convoitises dans nos yeux, puis les pensées. Il faut garder nos pensées dans la sainteté, dans la pureté. Tout ce qui est honorable, vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Un dernier passage, il ne faut pas oublier qu'il y a un jugement terrible qui attend les adultères. On voit ça dans 1 Corinthiens 6,9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, on voit que les impudiques sont là-dedans, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Prions. Père Seigneur, je te remercie pour ta parole, pour nous éclairer, pour qu'elle soit une lumière à notre sentier, pour nous garder afin qu'on marche dans la sainteté, dans la droiture, puis qu'on puisse s'éloigner des occasions de chute puis des choses qui sont là pour essayer de nous faire tomber. Je te demande de nous garder puis qu'on soit un exemple en parole et en œuvre, dans nos pensées, dans nos yeux, dans notre comportement, afin qu'on donne le bon exemple puis qu'on puisse fuir le mal, fuir le péché, fuir les choses que tu as déjà condamnées dans ta parole puis qu'on puisse marcher d'une manière qui te plaît. Dans la sainteté, la pureté, loin du péché. Garde-nous peu. Qu'il n'y a rien qui nous empêche de goûter pleinement toutes les bénédictions que tu veux nous donner dans notre mariage. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu veux faire dans nos vies, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.